Alors Pierre Jox, quand on feuillette, outre votre livre, qui s'appelle donc « Cas de conscience », quand on feuillette votre pédigré, on s'aperçoit que, sorti de l'ENA, vous avez consacré environ 50 ans de votre vie à la politique. Et on se rend compte aussi que votre trajectoire a parfois, dans un même sens, et parfois en opposition, croisé celle de votre papa, puisque ministre du général de Gaulle, vous avez été vous ministre d'un des principaux opposants au général de Gaulle, et que vous êtes entré, par exemple, en 2001, au Conseil constitutionnel, dont vous venez de sortir, puisque vous y étiez rentré pour 9 ans, alors que votre père y a siégé entre 77 et 89. Et si on va encore plus loin, ça veut dire que votre père était au Conseil constitutionnel quand vous étiez ministre de François Mitterrand. Donc vos trajectoires s'entrechoquent en permanence. Et moi je me disais, ça ressemble à quoi un déjeuner du dimanche chez les Jox entre père et fils?
Oui, mais ça ressemblait à beaucoup de déjeuners du dimanche de famille. Non, d'abord, on ne s'entrechoquait pas, contrairement à ce que vous avez l'air de croire, ou alors vous faites semblant, peut-être aussi pour aguicher l'auditoire, mais... Non, mon père était un homme de gauche qui a été un partisan du Front Populaire. Il a été dans les cabinets de ministres du Front Populaire. Et puis il était dans la résistance, il était gaulliste. Mais moi, quand j'avais 8 ans, j'étais gaulliste. Pendant la guerre, quand De Gaulle était... Mon père a été révoqué par Vichy. Il s'est retrouvé à Alger. Il a préparé le débarquement des Alliés. Il a préparé l'arrivée de De Gaulle. Il a travaillé avec De Gaulle. Bon. Alors, il était d'ailleurs classé gaulliste de gauche. Et il était, de mon point de vue, pas très très à gauche, mais il n'était pas à droite. Donc il n'y avait pas de, on ne s'est pas entrechoqué, pas du tout. Mais mon père était un homme tolérant, un républicain, un démocrate. On dirait aujourd'hui que c'était un radical de gauche. D'ailleurs, il était dans le cabinet d'un ministre radical très connu du Front Populaire, qui était Pierre Cotte. Deuxièmement, excusez-moi de vous porter la contradiction si rapidement et avec modération, mais quand vous dites « j'ai consacré 50 ans à la vie politique », excusez-moi, c'est pas vrai du tout. J'ai passé 50 ans au service de l'État dans différentes fonctions, mais moi je suis magistrat depuis ma jeunesse, et je n'ai été dans la vie politique que pendant 20 ans. J'ai été élu député pour la première fois en 73. Et j'ai quitté la vie politique pour volontairement, mais pas parce que j'ai été battu, mais en 93, pour rentrer à la Cour des comptes où j'avais passé les premières années de ma vie professionnelle. Donc sur 50 ans de vie de service civil et militaire, j'ai eu 2 ans et demi de service militaire et 47 ans et demi de service civil, dont 20 dans la vie politique, mais pas plus. Donc, non, la vie politique, j'y suis entré très tard et je le quittais volontairement après 20 ans. Donc, le service de l'État, comme fonctionnaire ou comme magistrat ou comme assimilé à magistrat au Conseil constitutionnel, ce n'est pas la vie politique que j'ai connue. Moi, j'ai été élu ou réélu 5 fois député. Mais pendant 20 ans, je n'ai fait que ça. Mais avant et après, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Donc, je tiens à préciser ça. Mon père aussi, d'ailleurs. Mon père était professeur à l'origine. Il a été un haut fonctionnaire, il a été ambassadeur. Donc nous faisons de la politique en amateur.
Sous-entendu, aujourd'hui...
Que d'autres le font comme professionnel.
On en ferait un peu trop comme professionnel.
Oui, c'est ça, c'est mon point de vue, en effet.
Je voudrais revenir sur... d'accord, c'est vrai, il y a surtout 20 ans de politique. Néanmoins, en 95, au moment où se prépare la succession... après deux septennats de François Mitterrand, on parle de vous comme possible représentant du Parti Socialiste. Vous prenez le parti d'être supporter de Jacques Delors qui n'y va pas. Vous auriez refusé de prendre la place de Jacques Delors si on vous l'avait demandé gentiment ?
Ah, on me l'a demandé très gentiment. J'ai refusé pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis toujours hostile à l'élection du président de la République au suffrage universel. J'ai voté contre au moment du référendum de 62. Je pense que c'est une catastrophe nationale. C'est une situation très mauvaise pour la France. Ce n'est ni un régime parlementaire à l'anglaise ou à l'allemande, ni un régime présidentiel à l'américaine, et je pense que c'est un mauvais système. Et par conséquent, je n'allais pas me présenter à... Deuxièmement, quand j'ai quitté la vie politique, je l'ai quitté parce que je ne souhaitais plus en être, c'était pas pour y retourner. En plus, dans le cadre d'une élection que je désapprouve, donc je suis retourné dans mon métier d'origine et je l'ai fait. Donc, je vous répète, je fais de la politique quand ça me plaisait et j'ai arrêté quand ça ne me plaisait plus.
Quand on ouvre Cas de conscience, Pierre Joxe, on se dit, au bout de quelques pages, qu'on n'a pas affaire à un livre écrit par un homme public comme les autres. Vous ne racontez pas vos souvenirs, vous ne racontez pas les grandes rencontres qui ont jalonné vos différents passages au ministère. Vous revenez plutôt sur vos doutes, vos regrets, vos erreurs, ou à certains moments vos impuissances quand vous vous retrouvez minoritaire dans un groupe où vous n'avez quasiment pas voix au chapitre. C'est votre caractère, ça, à un moment donné, de vous être dit « je vais revenir sur tout ce qui m'a fait douter dans mon existence, même avant de devenir homme politique ?»
Non, c'est un peu le hasard d'un journaliste, comme vous peut-être, qui m'a interviewé, comme vous peut-être, sur une affaire très particulière qui était l'intervention militaire française en Somalie quand j'étais ministre de la Défense. Et il m'interviewait là-dessus et je lui ai raconté comment j'avais été choqué et très inquiet et ennuyé de la décision que Mitterrand avait prise sur le conseil, malheureusement, de Kouchner, qu'il avait suivi ce mauvais conseil, de nous aligner sur les États-Unis et d'envoyer des troupes en Somalie. J'étais ministre de la Défense depuis plus d'un an même. J'étais convaincu que c'était une erreur profonde. Ma petite expérience militaire et mes souvenirs et aussi mes études et mes lectures m'ont convaincu, et mon expérience de jeune homme comme militaire et mon expérience d'intervention internationale comme ministre de la Défense, mais même avant comme ministre de l'Intérieur, où on est mêlé à beaucoup d'opérations internationales à travers les problèmes du terrorisme, mais convaincu que ce n'était bon pour personne d'envoyer des troupes françaises en Somalie. C'était pas bon pour la Somalie, c'était pas bon pour les Somaliens, c'était pas bon pour les Français, ni pour les soldats français, ni pour la France, et que c'était donc que ça ne pouvait mener à rien de bon pour personne. Mais la décision était prise, et en France, curieusement d'ailleurs, le chef des armées, c'est le chef de l'État. Curieusement, le président des États-Unis, il est le chef du gouvernement, il est le chef des armées, et c'est clair. En France, le chef du gouvernement, c'est pas le président de la République, c'est le Premier ministre, théoriquement, encore qu'en fait, on sait à quel point c'est entremêlé. Qui est le chef des armées? C'est la Constitution, dit, c'est le président de la République. Mais qui conduit la politique militaire? La Constitution dit que c'est le Premier ministre. Qui est chargé de prendre les décisions dans le domaine militaire? C'est le président de la République, comme chef des armées, ou c'est le Premier ministre, comme chargé de la politique militaire. Est-ce qu'on peut faire la guerre sans déclaration de guerre? Non, il faut un vote pour déclarer la guerre. Est-ce qu'on peut faire des opérations militaires sans déclaration de guerre? Oui, il suffit de ne pas appeler ça guerre. Que fait le ministre de la Défense? Qu'est-ce qu'il est, le ministre de la Défense? Et il n'est pas le chef des armées. J'ai été ministre de l'Intérieur pendant pas mal d'années. Quand on est ministre de l'Intérieur, on est chef de la police. On est le chef des polices et on vous le fait sentir. C'est-à-dire quand on demande des conseils sur des affaires tordues au Premier ministre ou au président de la République, qui en l'occurrence pour moi étaient des amis, on vous dit, écoute, tu débrouilles... Hein. C'est ton affaire, c'est pas la nôtre. Bon, donc quand on est chef de la police ou chef des polices, on l'est. On commande et on paye les pots cassés. Quand on est ministre de la Défense, on n'est pas chef des armées. Et donc je me trouvais devant ce cas de conscience d'avoir appliqué une décision mauvaise en essayant d'abord d'empêcher qu'elle soit prise, mais là j'ai échoué. Et ensuite, c'est ce que j'ai dit à Mitterrand, j'ai dit, mais c'est une erreur grave, on n'a aucun intérêt à s'aligner sur les États-Unis là-dedans, nous n'avons aucune base juridique pour intervenir en Somalie, il n'y a aucune délibération de l'Organisation des Nations Unies, il n'y a aucun on peut invoquer aucune décision d'aucun organe des Nations Unies se référant à aucun article de la charte. Et on n'a aucune action d'une organisation internationale africaine, rien, on n'a aucune base. Le seul base, c'est faire comme les Américains. On est là, on n'est pas là pour ça. Et qu'est-ce que ça va conduire à quoi? Enfin bref, je lui ai fait un tableau. Mais une fois qu'il a pris cette décision, je démissionne ou je l'applique? Peut-être que vous vous souvenez que j'étais devenu ministre de la Défense à peu près un an auparavant, après la démission de Chevènement, qui avait démissionné parce qu'il était opposé à la première guerre du Golfe, la première. Alors que la première guerre du Golfe, elle reposait sur une décision claire des Nations Unies, avec un mandat précis, c'est-à-dire un pays en a envahi un autre, on envoie des forces qui, sous l'égide des Nations Unies, font que, et ne font que, renvoyer chez eux ceux qui ont envahi l'autre. Bon, je pense que Chevènement avait eu tort de démissionner dans cette circonstance, mais c'est son choix. Mais moi, j'étais un peu embarrassé pour démissionner. Alors, la France, c'est un pays où les ministres de la Défense démissionnent tous les ans, chaque fois qu'il y a une... Donc j'ai demandé à Mitterrand si au moins il me laissait libre d'appliquer la décision, s'il me laissait libre des moyens, des forces à mettre en œuvre, de leur rôle, de leur implantation, de leur emplacement, de leur implantation. Et quand il m'a dit, mais oui, pourquoi vous dites ça? Je lui ai dit, mais quand vous me posez la question, pourquoi? C'est que vous avez pris la décision sans être éclairé. Cela dit, puisque vous l'avez prise et qu'il faut l'appliquer, est-ce que vous me laissez l'appliquer? Et c'est grâce à cela que j'ai eu les mains libres, en effet, pour ne pas envoyer les troupes à Mogadiscio. Sauf un petit élément qui, d'ailleurs, a été accroché et a eu des ennuis. Mais ça a duré très peu, 3 jours. Et d'envoyer nos troupes vers l'intérieur, vers l'ouest, vers la frontière, loin de Mogadiscio. Et politiquement, on avait des troupes en... Ah oui, j'avais posé la question à Mitterrand, on envoie combien, pour combien de temps, avec quelles règles d'engagement, avec quelles règles d'ouverture du feu, avec quelles règles de coopération, avec quelles autres troupes, pour faire quoi? Bon, alors, bon, il se trouve que moi, j'étais dans l'armée, dans le désert, pendant une partie de mon service militaire, parce qu'on m'avait envoyé au fond du Sahara pour idées subversives. Et donc, j'avais quelques idées sur ce qu'on pouvait faire et ne pas faire...
Déjà, on pourrait dire.
Non, elles étaient encore subversives, mais quelques mois après, c'est De Gaulle qui a changé d'avis, et mes idées sont devenues la politique d'indépendance de l'Algérie. Donc, elles étaient encore subversives.
Oui, ensuite, elles ne l'ont plus été.
Voilà, elles étaient encore subversives. Plus pour longtemps. Et donc, l'affaire de Somalie... Alors, je racontais ça à ce journaliste, ce cas de conscience où je me suis trouvé amené à rester, à exercer ses fonctions... D'une certaine façon, si c'est pour limiter les dégâts, je me disais, c'est que j'accepte les dégâts. Et qu'est-ce qui m'assure que je pourrais limiter les dégâts et jusqu'à quel point? Vous savez que l'affaire de Somalie s'est terminée dans un bain de sang. Il y a un film qui en a été tiré, ça s'appelait La chute du faucon noir. Black Hawk, c'est faucon noir, c'est un nom d'un type d'hélicoptère américain. Et à la fin de la Somalie, c'est quand un raid de forces spéciales américaines qui ont voulu s'emparer de chef somalien, ça a échoué, ça a été un massacre de soldats américains d'abord, qui ont été traînés dans les rues, des cadavres traînés derrière des jeeps, vous avez vu ça à la télévision, mais il y a eu aussi des mitraillades de centaines de morts, de centaines de morts civiles, on dit un millier de morts civiles à Mogadiscio, et à la fin, Clinton a ramené tout le monde. Enfin, nous n'avons pas été mêlés. Les troupes françaises n'ont pas été mêlées à ça. Pour une bonne raison, c'est qu'on n'était pas là. On était ailleurs. On était dans le bled, assez loin, à faire de la gendarmerie, à reconstruire quelques ponts, à faire assurer la sécurité de certains convois, à faire des choses pas inutiles d'ailleurs, mais qui n'avaient rien à voir avec la mission Restore Hope. C'était le nom solennel qui avait été donné par les autorités américaines, par Bush, c'était Bush père, c'était le dernier acte de Bush père. Voilà. Et c'est quand j'ai raconté cette histoire à ce journaliste qui m'a dit, mais au fond, et, il m'a dit, il y a d'autres. Et alors, j'en ai fait, été amené à évoquer d'autres cas dans la vie professionnelle ou politique où je me suis trouvé devant ce genre de conflit entre ce que le philosophe Max Weber analyse comme étant le conflit entre l'éthique de conviction, on ne fait que ce que l'on croit juste, l'éthique de responsabilité, on fait ce qu'on doit. Est-ce qu'on peut combiner les deux? Oui, l'éthique de conviction ne veut pas dire qu'on est incapable d'exercer des responsabilités. Et l'éthique de responsabilité ne veut pas dire qu'on abandonne ses convictions. Mais on a des conflits, soit seul, soit avec d'autres. Et c'est comme ça que ce livre est né d'une conversation avec un journaliste. Pour la plus grande partie de ce livre. La fin du livre, elle est au contraire éclairée par des choses que j'ai désapprouvées au Conseil constitutionnel et où j'ai décidé finalement de publier pour la première fois, et je pense que mon exemple sera suivi par d'autres, de publier des opinions différentes et minoritaires que j'avais eues au Conseil constitutionnel et qui restent ignorées tant qu'elles ne sont pas publiées, ce qui est le cas en France, alors qu'en Allemagne, en Espagne, à la Cour suprême des États-Unis, à la Cour européenne des droits de l'homme, les opinions différentes minoritaires sont publiées chaque fois que le juge le demande.
Et en France, on pourrait dire qu'elles ne sont pas publiées parce que vous avez droit de réserve.
J'ai commencé.
Mais vous avez commencé quand vous avez quitté le Conseil constitutionnel.
J'ai décidé de le faire en mars 2009, lorsque le Conseil constitutionnel a entériné, c'est-à-dire n'a pas censuré, comme je le proposais, et comme d'autres pensaient qu'il fallait le faire. Je n'étais pas seul à le penser, mais je ne dirais pas qui d'autre. Mais nous étions minoritaires, nous avons été minoritaires, de censurer la disposition législative qui a transféré le pouvoir de nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public, France Télévisions et Radio France et France Internationale, qui était exercé depuis 30 ans, 25 ans, par une autorité administrative indépendante, en dernier lieu le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce pouvoir de nomination a été transféré du CSA au président de la République. Je pense que c'est une grave erreur, une grave régression. Et en plus, ça c'est un point de vue, une opinion. Et je démontre que c'est inconstitutionnel au regard de deux catégories d'arguments juridiques qui n'ont jamais été réfutées. D'ailleurs, mon argumentation que je développais, je lis bien la presse, y compris la presse politique ou professionnelle juridique. Je n'ai jamais été réfuté. Mon argumentation est double. Premièrement, il y a une jurisprudence ancienne, constante, invariable du Conseil constitutionnel depuis 25 ans, avec de nombreuses décisions que je cite et que n'importe qui peut lire sur Internet, puisque les décisions du Conseil constitutionnel, simplement, j'aide le lecteur en donnant la référence. Cette jurisprudence constante, ancienne et répétitive et presque radoteuse qui dit que la nomination des présidents des sociétés d'audiovisuel public par une autorité administrative indépendante est une garantie de la liberté, de l'indépendance et du pluralisme des médias. On radote ça pendant 25 ans. Le Conseil constitutionnel, comment peut-il, lorsqu'une loi lui est soumise et qui dit ce ne sera plus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais ce sera par décret en Conseil des ministres, c'était un décret en Conseil des ministres, c'est une décision du président de la République, on dira mais non, c'est un décret en Conseil des ministres, mais qui préside le Conseil des ministres? C'est le président de la République. Qui fixe l'ordre du jour du Conseil des ministres? C'est le président de la République. Qui nomme tous les membres du Conseil des ministres? C'est le président de la République. Aucune décision ne peut être prise en Conseil des ministres sans l'accord du président de la République. Et toute décision à laquelle le président de la République tient sera prise par le Conseil des ministres, sauf à ouvrir une crise épouvantable. Donc une nomination par décret en Conseil des ministres, c'est une décision du président de la République. Mais non seulement il y a cette jurisprudence ancienne, mais cette jurisprudence ancienne n'était après tout qu'une jurisprudence. Encore que elle était interprétée, elle était formulée comme se présentant comme une garantie d'un principe constitutionnel. Mais avant mars 2009, peu de temps avant mars 2009, vous en souvenez peut-être, il y a eu la réforme constitutionnelle de l'été 2008. Et dans la réforme constitutionnelle de l'été 2008, entre autres mesures, entre autres dispositions, il y a eu l'ajout à l'article 34 de la Constitution, en tête de l'article 34 de la Constitution. L'article 34 de la Constitution de 1958 a été modifié, la Constitution a été modifiée très, très nombreuses fois, et l'article 34 avait été modifié aussi. Mais là, c'est quand même plus qu'une portée symbolique. En tête de l'article 34 de la Constitution, par la réforme de 2008, est mise que, ajoutée parmi la rubrique des domaines dont la loi fixe les règles, intéressant la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias. Donc quand vous avez un texte constitutionnel approuvé par le Congrès, un texte constitutionnel écrit dans l'article 34 de la Constitution, qui dit quoi ? Qui dit que ce que radote le Conseil constitutionnel depuis 25 ans, à savoir que c'est une garantie de la liberté, du pluralisme et de l'indépendance des médias que de faire nommer les présidents des sociétés par une autorité administrative indépendante, on a là un faisceau de règles de caractère constitutionnel imparable. Donc, en oubliant même, mais il ne faut pas l'oublier, mais même si on oublie que c'est une régression par rapport à ce qui existait, ça renvoie presque au temps de l'ORTF, quand la télévision publique était en vérité un service gouvernemental. Mais indépendamment de toutes les opinions qu'on peut avoir, la démonstration que c'est juridiquement contraire à des principes constitutionnels dégagés et proclamés pendant une génération par le Conseil constitutionnel et confirmés par une réforme constitutionnelle, j'ai demandé à Jean-Louis Debré, qui présidait le Conseil, quand il préside toujours, je lui ai dit, écoutez, maintenant ça suffit, je souhaite que ma position, ma proposition de censure, si elle n'est pas approuvée, je vous demande de la publier. Et je me suis corrigé en disant, elle sera publiée. Je vous demande de la publier, et si vous ne la publiez pas, je la publierai moi-même. Pour ne pas les prendre en traître, et pour faire pression sur eux. Et aussi pour faire pression sur ceux qui allaient voter. C'était avant le vote. J'ai proposé, mon opinion différente, elle n'était pas minoritaire. Je publie ce que j'ai dit. Je dis voilà, là, je propose. Je propose quoi ? Je propose qu'on censure la disposition qui retire au Conseil supérieur de l'audiovisuel le pouvoir de nomination pour le donner au président. Et j'argumente. Donc, mon opinion différente, c'est une proposition de censure argumentée. Et la voilà, elle est rédigée, je la mets sur la table. Elle sera publiée. Et je vous demande de la publier si elle est rejetée. Si elle n'est pas rejetée, je ne demande rien. Pourquoi je pense que c'est important ? Parce que ça a mis chacun devant ses responsabilités. Chacun, au moment de voter, a pu savoir que, enfin, sauf s'il ne me croyait pas, mais comme en général, je fais ce que je dis, ben qu'un jour, il serait connu qu'il y avait une opinion minoritaire. Alors, je ne dis pas qui a voté contre mon opinion minoritaire, pour l'écarter. Mais tout le monde me croit quand on dit que moi, j'ai voté pour. Or, la publication des opinions différentes, pratiquée couramment en Allemagne, à la Cour européenne des droits de l'homme, etc., amène chacun à prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que les gens qui votent, quand on publie une opinion différente, par exemple aux États-Unis, rappelez-vous peut-être si vous avez vu ça, ça a été il y a quelques semaines, la Cour suprême des États-Unis a retoqué une loi limitant les participations des sociétés financières aux campagnes électorales. Cette loi a été déclarée annulée par la Cour suprême par 5 voix contre 4. Dans les journaux américains, j'aurais dû l'apporter, en particulier le Herald Tribune, le titre en caractère comme ça, c'est Justices. Aux États-Unis, les membres de la Cour suprême s'appellent Justice. Hein, Justice X ou Y. Et Justices, ça veut dire l'ensemble des membres de la Cour suprême. Justices, 5-4, comme un match de rugby. 5-4, sacre la loi sur le financement. Et on publie qui ? Les cinq, qui sont les cinq et qui sont les quatre. Et on publie l'argumentation des quatre, qui parfois, en l'occurrence, il y a eu deux opinions différentes, parce qu'il y a parfois des opinions différentes qui disent on est contre la décision, mais pour d'autres motifs. On est contre la motivation parce qu'elle pourrait permettre d'ultérieurement une autre jurisprudence, etc. Mais on les publie. En Allemagne, c'est courant. En Espagne, c'est courant. Là, elle sera, mon opinion, à moi, sera publiée. Alors, je l'ai publiée. Mais je ne voulais pas les prendre en traître. Je l'ai fait à la fin de mon mandat. Pourquoi ? Parce que, jusqu'au bout, j'ai espéré qu'il changerait d'avis d'abord, et j'ai jusqu'au bout espéré que dans d'autres décisions ultérieures, j'ai été déçu, mais c'est pas grave, parce que je pense que dans l'avenir, la publication des opinions différentes s'imposera en France, en particulier parce que la réforme de la saisine du Conseil constitutionnel, qui est maintenant ouverte à chacun d'entre vous, à tous les justiciables, personnes physiques ou personnes morales, ou sociétés, ou collectivités locales, ou associations, etc., fait que les gens voudront connaître ce qui est le cas dans toute décision juridique. Pas toutes, mais enfin, très souvent, il y a plusieurs solutions possibles. Et très souvent, quand une décision est difficile, sur une question importante, elle est contrebattue, elle est discutée, et les arguments qui s'échangent. Et très souvent, une décision qui est prise, elle est prise contre une décision minoritaire qui, très souvent, 20 ans après, sera la décision. Par exemple, moi, quand j'étais étudiant en droit, c'était le règne de la loi qui criminalisait l'avortement. Moyennant quoi, il y avait des dizaines de milliers de femmes qui mouraient dans des avortements clandestins en France, parfois qui mouraient pas, mais qui pouvaient être stériles. Et il y avait des milliers d'avortements illégaux qui se faisaient pour les gens qui en avaient les moyens en allant en Suisse de façon courante quand j'étais étudiant. À l'époque, c'était un crime. Et pendant longtemps, d'ailleurs, on coupait la tête des criminels, etc. Aujourd'hui, et j'étais député quand on a voté la loi Veil, aujourd'hui, l'intervention volontaire de grossesse est réglementée, est fixée par la loi, je ne dis pas réglementée, on a l'impression que c'est le règlement, donc par la loi, dans des conditions qui sont variables selon les pays, mais qui en gros autorisent l'interruption volontaire de grossesse pendant les 3 premiers mois de la grossesse. Je dis en gros pendant 3 mois, au fond les lois françaises, anglaises, allemandes considèrent que c'est le corps de la femme, qui en gros considère que dans les 3 derniers mois, c'est un enfant, donc c'est un crime. Et puis, selon les législations, selon où les pays, ou les époques, où est le curseur ? Bon, alors, comme j'ai étudié ces questions, maintenant je n'ai pas tout mémorisé, mais c'est extraordinaire de voir comme la loi a changé de la criminalisation totale et absolue qu'on enseignait, pas comme la loi et les prophètes, mais si, un peu, quand j'étais étudiant, et la législation de tous les pays, au moins d'Europe, aujourd'hui, qui a évolué d'ailleurs, puisque ce curseur s'est déplacé dans le temps et dans l'espace. Eh bien, c'est une démonstration que le droit change, et il change en fonction de quoi ? Il change en fonction de l'évolution des mœurs, il change en fonction de progrès ou de régression économique, mais le délit de coalition au XIXe siècle contre les ouvriers qui se mettaient en grève était envoyé en prison. Le droit syndical n'est arrivé que alors que la République était déjà bien installée. Le droit de grève a été réglementé tardivement. Lorsque j'étais étudiant en droit, on nous enseignait, notre professeur de droit civil, M. Julio de la Morandière, qui était un homme particulièrement réactionnaire dans tous les domaines, ne trouvait rien à redire contre la torture pratiquée couramment pendant la guerre d'Algérie, mais nous faisait des cours en disant c'est épouvantable, avec le versement des allocations familiales aux enfants naturels, on détruit la famille légitime, et vous verrez qu'un jour viendra où on versera même, on reconnaîtra même les enfants adultérins, et on reconnaîtra même les enfants nés hors mariage comme ayant les mêmes droits que les enfants nés dans le mariage, etc. Alors, quand il nous disait tout ça, on avait tendance à le considérer comme un vieux crétin, et un vieux réac, qu'il était d'ailleurs. Enfin, il n'était pas tellement vieux, il était plus jeune que je suis aujourd'hui, mais il était beaucoup plus vieux dans sa tête, en tout cas. Mais il décrivait le droit. Il commentait le droit à sa façon. Mais le droit, effectivement, changeait sous ses yeux. Aujourd'hui, moi, ma fille s'est mariée après le troisième enfant qu'elle a eu avec le même garçon, d'ailleurs, très sympathique, et s'est mariée alors qu'ils étaient... Le mariage... Il y a plus de couples mariés, paraît-il, couples vivant ensemble de façon durable en ce moment, paraît-il, qui ne sont pas mariés que de ceux qui sont mariés. Donc le droit du mariage, le droit de la famille, le droit de la personne évolue, le droit social évolue en fonction de quoi ? En fonction d'évolution de données qui sont dans la tête des gens, qui sont dans les mœurs, etc. Eh ben, quand vous voyez des opinions différentes du tribunal constitutionnel espagnol ou de la Cour suprême, la Cour constitutionnelle allemande ou de la Cour suprême des États-Unis, vous voyez l'évolution, les combats d'idées. Par exemple, pour convaincre mes collègues français, je leur avais donné des exemples quand on est allé en Espagne visiter la Cour constitutionnelle espagnole. Comme c'est un de mes anciens collaborateurs qui est ambassadeur de France en Espagne, je lui ai demandé de me mijoter un guet-apens avec des amis socialistes comme moi-même de la Cour constitutionnelle espagnole. Je leur ai dit, apportez des bons exemples pour faire comprendre aux Français qui vont venir ce que c'est que les opinions différentes. Et des exemples qui soient liés au problème des mœurs et de la société espagnole. Pas forcément politique que ça. Alors, ils m'ont choisi deux bons exemples. Et sous les yeux écarquillés de mes collègues, et de moi-même d'ailleurs, parce que j'ai admiré le travail, ils ont décrit deux exemples qui ont donné lieu à des opinions différentes, très appuyées à la Cour, au tribunal constitutionnel espagnol, il y a 3 ans ou 4 ans, enfin, quand on est allé les voir. Le premier, c'est la politique du genre. C'est pas le sexe, c'est le genre. Le sexe, c'est une dimension très importante de l'activité humaine, mais le genre, c'est une dimension supérieure des problèmes de sexe. Rien en espagnol, c'est encore plus frappant parce que ça se... Quelle était la loi ? Il y a une loi qui a été introduite et qui punit plus sévèrement la violence d'un homme sur sa femme que celle d'une femme sur son homme. C'est injuste, c'est inique, c'est contraire aux droits de l'homme, on pourrait dire. Alors la discussion en Espagne, c'est non. Les hommes, traditionnellement, sont plus violents que les femmes. Les hommes sont plus lourds, plus gros, plus forts, plus méchants que les femmes. En Espagne, il y a une tradition de battre les femmes. Donc, il faut punir plus sévèrement les hommes qui battent les femmes, parce que les femmes qui battent les hommes, c'est beaucoup plus rare, c'est beaucoup moins grave, c'est beaucoup moins dangereux. Puis c'est pas une tradition culturelle, c'est un... Par conséquent, les gens ont dit, mais non, c'est inégal, c'est inégalitaire, c'est contraire à l'idée d'égalité des sexes, ou des genres. Ah non, non, au contraire, la vraie égalité, c'est celle qui va rétablir un peu d'équilibre, et dans la mesure où la loi pénale a un but, bien sûr, répressif, on punit les fautes commises, mais elle a aussi un but préventif. On espère que la crainte de la sanction va dissuader le délinquant ou le criminel ou celui qui a l'intention de le faire. C'est le facteur dissuasif. L'exemplarité de la peine, elle est faite pour celui qui est puni, mais elle est aussi faite pour ceux qui pourraient être tentés de faire la même chose. Donc, une politique pénale intelligente prévoit des peines et des procédures à la fois pour punir et pour prévenir. Et donc, dit, si on veut lutter contre les violences faites aux femmes, qui sont 40 fois plus nombreuses que les violences faites aux hommes par des femmes, eh bien, il faut ça. Le débat a été jusqu'au tribunal constitutionnel. Et il y a eu publication, il y a eu une décision qui a été prise, qui accepte ça, et il y a eu publication de ce débat. Et c'est intéressant. Et ils avaient pris un exemple, là, qui est un exemple, c'est... Alors, est-ce que plutôt la gauche, plutôt la droite, peu importe. Autre exemple, pris en Espagne, qui a donné lieu à des publications En Espagne, l'enseignement religieux est donné. Pas... Ça vous choque ce que je vous ai dit sur ces lois-là ? Vous avez un air choqué, là, non ? Ah non, parce que j'ai deux dames qui avaient l'air de... Personnellement, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je pense que c'est pas idiot. On n'est pas habitué en France à avoir ce genre de droit. Mais la discussion qui a eu lieu devant le Parlement espagnol, qui a eu lieu dans les tribunaux, qui a eu lieu devant le Conseil, la Cour, le Tribunal constitutionnel espagnol, est intéressante sur la fabrication du droit. Sur un autre domaine, en Espagne, aujourd'hui encore, les religieux, l'enseignement des religions est donné dans l'établissement public. Dans tous les établissements publics, l'enseignement religieux est donné par des gens qui sont désignés par les responsables des religions. Alors, en Espagne, pour la plupart, c'est catholique. Les musulmans, ils ont presque tous été chassés, mais il y en a quand même quelques-uns. Les juifs, ceux qui n'ont pas été chassés, ont été brûlés, il y en a encore quelques-uns. Les protestants, ils ont tous été brûlés, il n'y en a pas du tout. Donc, en Espagne, c'est assez monocolore. Mais quand même... quand même, ça s'applique selon des règles, il y a les responsables. Alors, il y a des imams qui désignent dans certains endroits où il y a des musulmans. Et pour les catholiques, c'est l'évêque. Et l'évêque de Valladolid a provoqué un cas très grave. Là, je vous parle d'Espagne, mais c'est quand même lié au problème du Conseil constitutionnel français, hein, ça illustre. L'évêque de Valladolid a suspendu, n'a pas renouvelé le contrat d'un professeur de religion catholique à quelqu'un qui était professeur depuis 9 ans. 3 ans, il a renouvelé. Et puis la 10e année, on ne le renouvelle pas. Pourquoi ? Qui était ce professeur d'enseignement religieux catholique désigné par l'évêque de Valladolid, reconduit et interrompu ? C'était un curé, alors on ne dira pas défroqué, ramené à l'état laïque selon les règles du droit canon, qui donc avait été sorti de ses fonctions de prêtre, ramené à l'état laïque, marié à l'Église, conformément aux règles de l'Église catholique, marié avec des enfants, et nommé, alors qu'il était donc réduit à l'état laïque et marié, nommé professeur d'enseignement religieux, ce qui montre que l'évêque de Valladolid avait un esprit assez large. Il est nommé, il est renommé. Mais une fois, il signe une pétition d'une association qui prend position en faveur du mariage des prêtres. Et là, l'évêque le suspend. Et le débat juridique est, mais quels sont les droits fondamentaux qui doivent être le plus respectés ? Est-ce que c'est le droit fondamental de ce citoyen espagnol qui a le droit de prendre position pour le mariage des prêtres, comme il a le droit de prendre position contre ? Ou est-ce que c'est le droit fondamental de l'Église catholique, des catholiques, de voir les représentants de leur hiérarchie, c'est-à-dire à Valladolid, l'évêque, décider que tel professeur ne peut plus enseigner parce qu'il a pris cette position qui est pourtant la position que peut prendre n'importe quel citoyen espagnol, fût-il un ancien prêtre ? Bon, c'est un débat intéressant, surtout en Espagne, où le poids de l'Église catholique est quelque chose d'encore très... Bon, voilà les opinions différentes. Bon. Et évidemment, en France, ça va se répandre. Moi, j'ai ouvert la porte, j'ai entrouvert la porte, mais forcément, ça va se répandre. Les gens ne supporteront plus, quand il va y avoir des citoyens qui vont faire appel au Conseil constitutionnel, ils supporteront plus que leur disent « Voilà la décision qui a été prise. Ah bon, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas eu de discussion. Ah, ça, vous ne le saurez jamais. » Si, vous le saurez dans 25 ans, puisque les archives sont ouvertes au bout de 25 ans. Voilà pourquoi je pense que je n'ai fait qu'entrouvrir une porte. J'arrête de parler de l'Espagne maintenant.
Mais... Ben justement, j'aimerais bien qu'on change de pays et qu'on aille se transporter pour quelques minutes, si tant est que vous teniez dans quelques minutes, en Algérie, parce que vous y êtes envoyé comme militaire et vous êtes envoyé dans des conditions un peu particulières puisque vous devenez censeur de l'Écho d'Alger de Alain de Sérigny et censeur, et vous le dites d'ailleurs et vous l'écrivez, ce n'était pas vraiment votre mot préféré. Parallèlement, l'Algérie, c'est le lieu où Louis Jox, votre papa, mène les négociations avec le FLN et conclut la paix en Algérie. Vous vivez ces événements de l'intérieur, sur place. Et puis, en se transposant et en se transportant en 1982, 18 mois après l'arrivée de François Mitterrand à l'Élysée, vous allez avoir un véritable problème, puisqu'au moment où vous êtes président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, on profite, semble-t-il, d'un de vos déplacements à New York pour assister à une session de l'ONU, pour présenter un texte de loi qui, pour résumer, consisterait à réintégrer les généraux félons d'Algérie, à leur tête Salin et Jouot, dans l'armée française. Alors vous allez peser de tout votre poids, le texte va être amendé par l'Assemblée, puis rétabli par le Sénat, et enfin adopté grâce au 49.3 de sinistre mémoire. C'est l'article qui permet de passer en force. Donc, trois moments. Un, dans votre vie en Algérie comme militaire. Le moment où votre père signe ces accords qui lui tenaient à cœur et qui lui ont permis de sortir la France de ce bourbier. Et puis, en 82, tout d'un coup, une espèce d'injure qui vous est faite, semble-t-il, que vous prenez mal et qui est l'occasion d'un vrai clash avec François Mitterrand, dont vous êtes un compagnon depuis très très longtemps, puisqu'en 71, vous faites partie de ce groupe fondateur. Est-ce que donc j'ai bien résumé? Est-ce que l'Algérie n'est pas aussi un pays très important dans votre vie?
Oui, mais l'histoire. Enfin, mon père a été révoqué par Vichy et il a été nommé professeur à Alger grâce à une entourloupe de l'éducation nationale à l'époque, parce que l'Algérie avait une administration autonome. C'était la France sans l'être tout en l'étant. Monsieur Jules Isaac, qui était inspecteur général d'histoire, mon père était agrégé d'histoire. Monsieur Jules Isaac, qui avait autorité sur les nominations dans l'enseignement en Algérie, a nommé un certain nombre de professeurs patriotes à Alger, dont mon père. Et donc on est parti. Mon père a été démobilisé en septembre 40 et on est parti pour Alger. Et moi, donc, j'ai passé ma petite enfance à Alger. J'étais à l'école à Alger. Et mon père, c'est comme ça qu'il a préparé, dans la résistance, il a contribué à la préparation du débarquement des Alliés, l'arrivée de De Gaulle, et il a connu l'Algérie. Et c'est pour ça, sans doute, que 20 ans plus tard, De Gaulle lui confiera le soin de mener à bien les négociations d'Évian, qui ont été, évidemment, difficiles et qui n'ont pas mené et qui n'ont pas abouti au résultat qu'on espérait, c'est-à-dire à une coopération franco-algérienne qui n'est pas ce qu'on espérait à l'époque. Mais donc l'Algérie, j'y étais enfant et j'y étais dans un cadre, toute ma famille, on a gardé des souvenirs importants, y compris parce qu'on a vu de près ce qu'était la société coloniale, les inégalités, les injustices. C'était à l'école, moi, on ne peut pas me raconter d'histoire. J'étais à l'école pendant 4 ans, à l'école primaire en Algérie. Et quand je suis revenu comme militaire, j'étais déjà étudiant, j'étais un des responsables de l'UNEF qui luttait contre les guerres coloniales. Et donc au début, j'étais envoyé assez loin dans le sud. Mais quand De Gaulle a pris le bon virage, le discours du 16 septembre 59, tout d'un coup, je deviens un officier très sûr, puisque c'est finalement De Gaulle qui a rallié mes idées. Hein, donc, mais tout d'un coup, je suis devenu quelqu'un de très fiable. Mais c'est pas, mon père n'était pas aux affaires algériennes à ce moment-là. Il était ministre de l'Éducation nationale, d'ailleurs. Mais quand l'affaire des barricades a éclaté à Alger, et que le journal L'Écho d'Alger, qui était le journal de Sérigny, qui était un grand patron et un grand colon, le gouvernement a décidé d'instaurer la censure, et on m'a désigné comme censeur de L'Écho d'Alger. On a censuré d'autres journaux. On censurait L'Écho d'Oran, on censurait les dernières. Mais moi, j'étais chargé des censures du journal le plus engagé là-dedans. J'étais officier de la sécurité militaire et j'avais déjà un peu d'expérience puisque dans le Sahara, j'avais dû m'occuper de d'autres questions qui concernaient les frontières avec le Maroc. Je connaissais donc un peu le Sahara et je connaissais surtout un peu les liens entre certains militaires et l'extrême droite. Alors pourquoi on m'a nommé censeur, moi? Évidemment parce que j'étais là, sûr. En plus, sans doute, parce que j'étais un peu juriste, j'étais élève de l'ENA, et mon père, étant au gouvernement et un gaulliste connu, voilà. Donc j'étais censeur à 25 ans d'un journal pendant 12 jours, 15 jours seulement. Et c'était bizarre, parce que censurer un journal, c'est une expérience rare d'abord, et ensuite assez déplaisante, parce que on est contre la censure, et puis en même temps, on est aussi contre les appels au meurtre, on est contre la censure, mais on est contre les appels aux manifestations dont on sait qu'elles conduisent à des bains de sang. Il y avait eu l'affaire des barricades, elle a commencé par un guet-apens où une dizaine de gendarmes sont morts sous mes yeux, je les ai vus, j'étais là, moi. Et une vingtaine ou une trentaine ont été blessés plus ou moins grièvement, pris sous un feu croisé de fusils mitrailleurs sur les escaliers du gouvernement général. Bon, c'était pas une plaisanterie, il y avait du sang partout, en plus, en Algérie, à ce moment-là, à Alger. Hein. Et donc, on savait très bien que les appels à l'émeute, les appels à la manifestation, allaient se traduire par des engrenages, par des provocations, à des morts à nouveau, parce que tout le monde tirait sur tout le monde. Voilà, donc j'ai été censeur, et c'est une expérience curieuse, en effet, où on est partagé entre le sentiment que ce qu'on fait est très mal, censurer un journal, Et puis, en plus, la censure, pour moi, ça évoquait la guerre. La censure, c'était Pétain, c'était les nazis. Et la censure, c'était très mal. En plus, le gouvernement, le même gouvernement qui me donnait de censurer le Code d'Alger, censurait la presse de gauche en France, ou saisissait les journaux de gauche en France. Donc, c'était un cas de conscience, d'abord, qui n'a duré que 12 ou 13 jours, en plus, qui était assez curieux, et j'ai une expérience un peu bizarre, parce qu'on est un peu soi-même et son contraire. Mais l'affaire d'Algérie, pour moi, en effet, rebondit quand la réhabilitation et la réintégration des généraux de l'OAS dans l'armée, c'était une grave erreur. J'ai jamais compris pourquoi Mitterrand a fait ça. Et en effet, comme vous l'avez raconté, comme j'avais dit que je ne voterais jamais cette loi, que je quitterais le Parlement sans faire d'autres histoires, mais ça a évidemment fait un peu de bruit, puisque j'étais président du groupe parlementaire. Et en plus, le groupe parlementaire, après avoir voté aveuglément quand j'étais pas là, a voté à 95% contre la loi. Et le bureau du Parti Socialiste aussi. Et quand j'ai dit à Mitterrand que jamais je ne voterai cette loi et que je m'en irai, je ne voterai pas contre, je partirai. Et il m'a feinté en employant l'article 49, paragraphe 3, qui permet de faire passer une loi sans vote. Aujourd'hui, le fonctionnement de l'article 49, paragraphe 3 est plus limité. À l'époque, il était, je dirais pas monnaie courante, mais il était d'usage facile. Ben voilà, c'est comme ça, c'est pas un bon souvenir. Mais...
Vous dites même, je crois que j'ai eu tort de ne pas démissionner. C'est là que vous avez eu le plus l'impression que vous étiez proche.
Mais ça n'avait de sens de démissionner. Je pouvais démissionner. Et être réélu triomphalement 3 mois après. Parce qu'en France, quand un député est nommé ministre, il quitte son poste de député. Doit démissionner. On a un mois pour choisir. On accepte. Si on reste député, si on reste ministre, on n'est plus député. Si on n'a pas démissionné de l'Assemblée, eh ben on n'est pas ministre. Et donc, il n'y a pas de partiel. Tandis que si un député démissionne, s'il meurt, un député qui meurt, c'est une bonne affaire, le suppléant devient député. Si un député est nommé, c'est dans l'actualité en ce moment, si un député est nommé sur une mission de service public de longue durée, au bout de 6 mois, s'il est renouvelé, c'est comme s'il devenait ministre, son suppléant devient député, ça évite une partielle. Mais si un député démissionne, il y a une partielle, dans un délai de quelques semaines. Or, j'étais député de la Saône-et-Loire et d'une région de Saône-et-Loire assez républicaine. Et si j'avais démissionné sur l'affaire de l'OAS et je m'étais représenté, j'étais réélu triomphalement. J'avais déjà été élu pas très triomphalement la première fois en 73 avec 53% des voix. J'avais été réélu en 78 avec presque 60% des voix. Et en 81, j'ai failli être élu au premier tour. J'étais en position de force. Si j'avais démissionné, là, j'étais réélu. Et c'était un camouflet terrible pour Mitterrand. Comme je lui ai dit, je ne voterai pas cette loi. Je ne lui ai pas dit, d'ailleurs. Si je lui avais dit, et si vous la faites voter, si vous me faites le coup du 49-3, auquel je n'ai pas pensé comme un crétin, j'aurais dû y penser. Si vous faites ça, je démissionne, je vote pas, et je me représenterai et je serai réélu, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. On ne le saura jamais.
J'ai oublié de vous poser une question tout à l'heure, mais on peut juste répondre par oui ou par non, ou en quelques secondes. Bernard Kouchner, donc l'actuel ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, a lu votre livre, il a envoyé un commentaire, il vous a fait savoir que, parce que parmi les gens qui sont égratignés, on ne peut pas dire que ça soit le moindre.
Oui, non, je n'ai jamais été en bon terme avec Kouchner, mais moi je l'ai connu, il était communiste. Et stalinien, il me traitait de social-démocrate, social traître, tout ce qu'on veut. Ça, c'était il y a 50 ans. Maintenant, il est ministre de Sarkozy. Entre-temps, il a été ministre de Mitterrand. J'ai toujours été en mauvais terme avec lui, mais c'est pas grave, c'est secondaire. Mais enfin, moi, je le connais depuis très très longtemps, donc il va pas me chercher, lui, parce qu'il sait que je serai pas modéré, comme vous dites tout à l'heure.
Parmi les dossiers dont vous parlez, que vous évoquez, on va pas évidemment tous les passer en revue, mais enfin, il y a quand même... cette mission en Languedoc, vous dites que sous vos yeux se déroule la plus vaste opération spéculative du gaullisme immobilier. Vous ajoutez, les scandales furent vite étouffés, c'était l'époque. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça pourrait plus se passer ?
Ah, si, bien sûr. Il y a des petits scandales immobiliers qui sont étouffés. Mais le gaullisme immobilier, c'est quelque chose, c'est pas moi qui ai inventé la formule, c'est une légende dans la salle qui ont un certain âge s'en souviennent peut-être. Il y a eu une période dans les années 60 où on était en pleine période d'expansion économique. Moi, je travaillais au plan à l'époque, à la Cour des comptes et au plan. Le taux de croissance était de 5%, 6%, 7%. Comme en Chine aujourd'hui. 5%, c'était les mauvaises années. Bon. Au plan, c'était très intéressant. On avait des réunions pour discuter, pour arbitrer sur ce qu'on consacrait à l'amélioration de la consommation, les équipements collectifs, etc. Et la construction immobilière, la construction de logements, en particulier dans la région parisienne, a littéralement explosé. Sous la pression de la demande et parce que les moyens financiers étaient là. Or, la spéculation immobilière s'est développée d'autant plus fort que, évidemment, dans la région parisienne, comme n'importe où d'ailleurs, si un terrain est classé constructible et qu'on peut construire 12 niveaux, sa valeur est multipliée. Ou au contraire, s'il est classé non constructible, sa valeur change énormément. Donc des décisions imperceptibles peuvent faire gagner énormément d'argent à ceux qui possèdent ces terrains. Et ceux qui possèdent ces terrains peuvent avoir tellement intérêt à gagner énormément d'argent par ce procédé qu'ils vont refiler une partie à ceux qui ont le moyen de prendre la décision ou d'influer sur la décision. Et ce qu'on a appelé le gaullisme immobilier, ça a été le fait qu'un certain nombre de ministres de Gaulle ou de hauts fonctionnaires dans leur sillage se sont livrés à des opérations spéculatives ou les ont favorisés ou les ont facilités ou les ont permis. Et je ne mets pas tous les gaullismes là-dedans, puisque mon père était lui-même un gaulliste, pas du tout immobilier, et qu'il n'a jamais été soupçonné de malversation d'aucune sorte. Mais ça a existé. Or, l'affaire du Languedoc est un aspect du gaullisme immobilier. C'était l'opération d'aménagement de la plaine du littoral du Languedoc, qui était infestée de moustiques, et qui était aride, qui était souvent, d'ailleurs, qui n'avait presque pas de valeur, et qui avait d'autant moins de valeur qu'elle faisait du vin très mauvais, et du vin d'autant plus mauvais que ce vin ne pouvait plus être amélioré par les vins d'Algérie, puisqu'il venait de vins d'Algérie. Les vins d'Algérie, dans le Languedoc, moi j'ai fait mon stage de l'ENA à Montpellier, c'est pour ça que je connaissais le Languedoc et qu'on m'a embauché dans la mission de Languedoc. Les vins d'Algérie, on les appelait les vins médecins, parce que c'était des vins qui soignaient les vins du Languedoc, qui arrivait à 9 degrés difficilement et qui était pâle. On mettait des vins d'Algérie de Mascara qui étaient à 15 degrés, étaient foncés, et on faisait du rouge Kiravi à 11,5 degrés par des mélanges. Voilà. Bon. La spéculation du Languedoc, ça a consisté à faire acheter des terrains pour presque rien, et après ça, faire des aménagements avec des fonds publics énormes, des routes, des drainages, de la démoustication, des plantations par milliers, des centaines de milliers d'arbres, des aménagements de ports, etc., et des préparations de terrain pour ensuite vendre des lots à des promoteurs. Et il y a eu là des opérations spéculatives extraordinaires. Je les ai vues se développer, je les ai dénoncées en interne, Et je suis parti, j'ai quitté cette mission parce que je voyais que le chef de cette mission, qui était un homme très honnête d'ailleurs, mais faible, je crois. Donc je suis parti. Je ne le mets pas en cause, lui, parce que c'est un homme que je respecte. Mais autour de lui, derrière lui, il y a eu ça. Mais c'était mon expérience de jeune fonctionnaire. Il y en a eu beaucoup d'autres dans d'autres endroits. Mais là, c'était à grande échelle. Et en plus, comme j'étais dans la mission, comme je m'appelais Jox, mon père à ce moment-là était justement ministre de De Gaulle, j'étais de la Cour des comptes, on m'a fait des propositions très, je dirais pas alléchantes, plutôt écœurantes, mais enfin qui auraient pu allécher d'autres. Donc c'est ce que j'ai vu ça se développer.
On va dans quelques minutes donner peut-être la parole dans la salle. Oui, votre ça va. On est encore dans le bon timing pour votre train.
Oui.
Je voulais juste parce que c'est vraiment quelque chose qui ne vous ressemble pas. Que vous reveniez quelques instants sur votre mensonge à François Mitterrand à propos de deux terroristes du groupe Abou Nidal. Je dis ça parce qu'effectivement, on vous imagine doutant dans votre tête, on vous imagine vous demandant si vous devez démissionner ou non, et on vous imagine moins bien mentant, même si c'est pour la bonne cause.
Bon, c'était pour la bonne cause, c'était pour avoir la paix surtout. C'est-à-dire que c'était une histoire de terroriste qui ressemble un peu à celle qui se déroule en ce moment. Il y avait eu dans le passé, quand je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, la première fois, il y avait eu dans le passé des assassins qui avaient assassiné des dirigeants palestiniens, qui avaient été attrapés, condamnés en prison. Et il y avait eu des menaces de la part du groupement Abou Nidal de faire sauter des trains en France ou des stations de métro si on ne libérait pas leurs deux hommes de main, leurs deux assassins. Et le gouvernement français de l'époque avait dit non. Mais vous savez que la loi française permet à mi-peine de libérer même des criminels si on n'est pas dans la peine incompressible. Et par conséquent, si on n'a pas de raison de penser que vous êtes à l'origine d'attentats en France dans les temps qui viennent, il n'est pas impossible, il n'est pas certain, mais il n'est pas impossible que vos gars soient libérés à mi-peine. Et quand la période de la mi-peine est arrivée, malheureusement pour moi, c'est moi qui étais ministre de l'Intérieur. Et c'est moi qui recevais les menaces, et c'est moi qui rappelais à d'autres que, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous voulez faire? La décision de libération n'est pas du tout une décision du ministre de l'Intérieur, c'est une décision du garde des Sceaux, mais encore appuyée sur des positions prises par l'administration pénitentiaire, par le juge, par les juges, et encore le garde des Sceaux dans ce genre de cas, qui était Badinter à l'époque, ne prend pas ce genre de décision sans un référé au président de la République, au Premier ministre, etc. Mais le ministre de l'Intérieur, lui, il est chargé d'expulser les mecs. Les mecs, pardon, excusez-moi, c'était des assassins. Hein. Comme ça vient de se produire pour le type qui avait coupé le cou de Bakhtiar. Dieu. Alors, le problème, le malheur a voulu qu'il soit libéré et il devait être pris en charge. Ils étaient pris en charge par des flics, par des policiers de la DST pour les mettre dans un avion, pour les envoyer ailleurs. Mais au même moment, il y a eu une série d'attentats. Tout le monde a eu peur. Eux ont eu peur. Et Mitterrand a eu peur, mais il dit, il faut les remettre. Ils sont sortis de prison. Je dis, bah, bien sûr, on les a sortis de prison. Et il faut les remettre en prison. Je dis, mais on peut pas. C'est illégal. On peut pas mettre en prison. L'administration ne peut pas. Je dis, vous voulez le savoir, vous avez été ministre de l'Intérieur et garde des Sceaux. Alors, il n'y a pas question. Ah, non, il faut les coffrer. Alors, je dis, écoutez, ils sont bien au chaud. On s'en occupe. Parce qu'ils veulent plus, ils voulaient plus quitter la France. Ils avaient peur de se faire assassiner par des services spéciaux. Alors on avait donc en garde ces deux bébés, ces deux les flics m'en parlaient, hein, nos deux bébés vont bien, et c'est pas bon. Et pour les expulser, c'était compliqué. Mais pour les protéger, on devait les protéger. Alors pour les protéger, il fallait que des fonctionnaires de la police nationale se mettent en danger eux-mêmes. Alors c'était quand même très désagréable, et par-dessus le marché, ça durait parce qu'il y a eu des attentats, bon, bref. Et un jour, Mitterrand me dit, alors ça y est, vous en êtes débarrassé. Ça s'est passé en 6 jours, tout ça. Et là, comme il commençait à m'énerver un peu, et que je lui dis oui, c'était pas vrai. Et pour qu'il me laisse tranquille, parce que évidemment, c'était un cas de conscience, mais ça, j'ai tranché. Je me dis, s'il continue à m'en parler, il va vouloir s'en mêler lui-même. D'abord, il peut même pas prendre la décision parce qu'il n'a pas le pouvoir. Autant le chef de le ministre de la Défense le chef d'État et chef des armées et ministre de la Défense n'est pas le chef des armées, autant le ministre de l'Intérieur est chef de la police. Et les flics eux-mêmes, ils auraient obéi à moi et pas à lui. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient leur peau en cause. Donc je lui dis oui, et c'était pas vrai. Et c'était pour la bonne cause, non, c'était pour avoir la paix, parce que je me disais, s'ils s'en mêlent, ça peut mal tourner, donc il vaut mieux que... Mais deux jours après, ils étaient ailleurs.
J'ai vu que vous aviez pas mal de livres en préparation, sérieux, etc. Mais quand on vous entend parler, d'abord, on se rend compte que vous êtes un peu moins austère que l'image que vous voudriez bien donner, et que vous avez certainement pas mal de choses à raconter, mais qui seraient peut-être un peu plus de la petite histoire que dans la grande histoire. Est-ce que ça fait partie de vos projets ?
Non, pas du tout, non.
Oui, non. Projets sont... Vous commettez pas
à quoi ?
Bon, je sais pas, à nous raconter des séances du Conseil constitutionnel avec Chirac et Giscard qui peuvent pas se voir, par exemple. Il doit y avoir des moments peut-être un petit peu étonnants.
Non, ça c'est... Non, Chirac et Giscard, ils peuvent pas se voir, ben ils se voient pas. Hein. Ils arrivent, ils s'asseyent, ils s'en vont. C'est pas du tout. Les journalistes racontent qu'ils s'en voient pas du tout. C'est froid, mais c'est mais, non, c'est pas. Non, je prépare des livres, mais sur des sujets historiques et philosophiques, et donc qui n'ont rien à voir avec la...
Vous voulez conserver cette image un peu sérieuse?
Ah, mais je pense pas du tout à mon image, je suis comme je suis, je fais ce que je fais, j'ai pas... C'est vous qui m'avez donné, ça m'a déplu au début, 50 ans de vie politique, alors non. J'avais 20 ans de vie politique.
20 ans et ça suffit.
Ça m'a suffi, oui, mais... Voilà, écoutez, moi je crois que...
On est dans le timing. Si certains d'entre vous veulent se faire dédicacer les ouvrages, vous pouvez.
Voilà.